Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Vanessa Schneider, bonjour.
Bonjour.
J'ai une belle vie. Constat courageux, positif et fier de votre cousine Maria Schneider au moment de sa mort. Alors, actrice oubliée ou méconnue des plus jeunes, pourtant on en reparle comme l'exemple extrême de l'emprise violente que peuvent avoir certains hommes sur les femmes, hommes de pouvoir ici, hommes évoluant dans un milieu culturel, donc en principe plus raffiné, violent sur grand écran, celui du film Le Dernier Tango à Paris. Quel lien vous unissez à cette cousine ?
Alors c'est à la fois un lien très proche et qui a été évolutif dans le temps, puisque avec Marie on a 17 ans d'écart, donc c'est presque une petite génération. C'était donc la fille de la sœur aînée de mon père et de l'acteur Daniel Gélin, ce grand acteur de l'après-guerre. Donc quand le film que vous venez d'évoquer sort sur les écrans et le scandale qui va avec, moi je regarde tout ça à hauteur d'enfant. Et en même temps, Maria est déjà très présente dans ma vie puisqu'elle a vécu chez mes parents lorsqu'elle a quitté le domicile de sa mère à l'âge de 15 ans. Et donc, elle retournait voir mes parents dont elle était très proche à la fois en âge et avec lesquels elle avait des liens extrêmement forts. Et puis plus tard, à l'âge adulte, quand moi je suis devenue adulte, on a tissé une relation d'adulte à adulte et de femme à femme jusqu'à sa mort.
Alors moi j'ai vu qu'il y avait une forme d'affection, de l'admiration quand vous étiez enfant, et puis aussi de la tristesse.
Oui, il y a les deux qui se mêlent. Il y avait, quand j'étais, donc c'est un livre qui est beaucoup écrit à hauteur de regard d'enfant, hein, quand j'étais enfant, je voyais cette actrice qui était ma cousine, qui était à l'époque très célèbre, qui était une femme magnifique, à qui il arrivait des choses extraordinaires, elle avait toujours des choses extraordinaires à raconter, qui connaissait tout le monde, qui avait beaucoup de charisme aussi, donc il y avait cette fascination, et il y avait également beaucoup de peur et beaucoup de... parce qu'il y avait aussi la face noire de Maria, qui ne m'avait pas échappé, même enfant.
Elle vous faisait même un peu peur. Elle faisait peur à votre frère.
Oui, mon frère qui se cachait quand elle venait à la maison. Ça, c'était l'époque de la drogue, hein, qui est quelque chose d'effrayant, hein, qui ne touche pas que ceux qui s'y adonnent, mais qui a des répercussions sur l'entourage et sur la famille entière. Donc, elle avait en effet des comportements qui étaient excessifs, qui pouvaient être violents, soit verbalement, soit physiquement, des choses qui étaient très, très inquiétantes. Et il y avait cette peur aussi, toujours, qu'il lui arrive quelque chose. C'est qu'elle elle était dans une telle souffrance et dans une démarche d'autodestruction, voilà, qu'il y avait toujours cette inquiétude qu'on ne la revoie jamais.
Et qu'est-ce que vous aimiez en elle ?
Qu'est-ce que j'aimais en elle ? C'était une femme qui était très libre. C'est pour ça qu'elle n'a pas été que victime. C'était aussi un fort caractère qui disait ce qu'elle pensait des choses, qui a fait des choix radicaux dans sa vie, qui avait beaucoup de charisme, qui était une vraie personnalité. J'ai un souvenir, surtout, c'était sa voix qui résumait tout ça. Une voix très, très grave, vraiment une voix très particulière qu'on reconnaît. Connaissais immédiatement, je me souviens au téléphone et même que je retrouve dans les films, quand je vois les films où elle joue, il y avait cette voix très particulière et je trouve qu'il était bien à son image, c'est-à-dire à la fois sombre et en même temps un peu envoûtante, donc c'est quelqu'un qui ne laissait personne indifférent.
Très lié à cette époque particulière, on peut en dire un mot peut-être pour les jeunes auditeurs, il s'agit des années 70.
Oui, tout ça se passe dans les années 70, dont elle est à la fois... c'était très compliqué pour elle parce que finalement elle se retrouve à la fois elle se sent victime de ce qui s'est passé sur ce film résumer pour vos auditeurs
qui lui-même est très attaché et très lié à cette époque.
Oui, c'est vraiment ce film Dernier Tango à Paris, donc de Bertolucci avec Marlon Brando, est un pur produit des années 70, puisque Bertolucci veut faire un film sur c'est un film qui traite de nombreux thèmes, mais en tout cas il met en scène une violence sexuelle et le sexe dans une relation, ce qui était très évidemment très peu coutumier. Maintenant on est beaucoup plus habitué, mais c'était très très peu coutumier à l'époque,
et
très choquant,
violente
et très choquant. Le film a été interdit au moins de 18 ans, il a été interdit dans certains pays, il a fait l'objet de nombreuses polémiques, et donc à la fois Maria avait très mal vécu ce qui s'était passé sur le plateau, ce tournage, elle était mineure à l'époque, son partenaire Marlon Brando avait 30 ans de plus qu'elle, donc elle a vécu en particulier cette scène de sodomie simulée, mais qui n'était pas prévu au scénario, qu'elle a vécu comme une agression. Et en même temps, elle a, à la sortie du film, été assimilée à son rôle dans le film par une opinion publique qui était souvent pas très bienveillante, et puis par un peu aussi toutes les ligues de vertu qui voyaient du coup en elle une fille scandaleuse.
Mais le film
a beaucoup choqué. Il était à la fois... comme ces années-là, qui laissaient déjà à l'époque personne vraiment indifférent, il fallait choisir son camp. Donc il y avait ceux qui prenaient la liberté tout azimut, y compris la liberté de création. Donc on peut tout faire au nom de l'art.
Oui, c'est ça.
Même contraindre une actrice.
Oui, parce que le comportement du cinéaste a été minable.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il a fait quelque chose qui, je pense, ne se pourrait plus se produire aujourd'hui. C'est-à-dire imposer à une actrice mineure une scène qui n'est pas écrite dans un scénario et ne pas la prévenir de ce qui allait se passer. Il s'en est justifié par la suite. Il assumait totalement.
Après.
Alors, il s'est excusé très, très longtemps après, malheureusement, après sa mort, après la mort de Maria. Donc, elle n'était plus là pour l'entendre. Mais lui expliquait, il disait, voilà, je voulais obtenir d'elle une vraie colère, une vraie crainte, de vrais cris. Et donc, du coup, il fallait
la
contraindre. Donc,
c'est ce que vous dites. Dans votre ouvrage.
Oui. Il voulait. Et donc, il a revendiqué, en fait, cette façon très brutale de faire que j'espère qui est maintenant un peu derrière nous. Mais elle l'a, en effet, subi très violemment.
Et l'impact, justement.
Et après, évidemment, ça lui a traîné. Elle s'est traînée ce film comme un poids.
Ça lui a collé la
peau. Tout au long de sa vie, oui.
Oui. Elle s'est sentie humiliée, je pense.
Elle s'est sentie humiliée, elle s'est sentie salie, elle a eu l'impression qu'on lui volait une partie de sa jeunesse. Et en même temps, il y a quelque chose de très paradoxal dans son histoire avec ce film, c'est que c'est ce film qui en fait une vedette, puisqu'elle avait déjà fait quelques figurations dans des films, notamment avec Alain Delon, qui était très proche de son père et qui l'avait accueilli sur des tournages. Mais on ne sait pas si elle aurait fait... Elle dit qu'elle aurait... qu'elle aurait fait carrière de toute façon, avec ou sans ce film. Mais en tout cas, on peut pas le savoir. Donc à la fois, c'est le film qui l'a propulse vraiment avec une célébrité mondiale, et immédiate.
Et qui la stigmatise.
Et en même temps, c'est le début de sa chute. Donc c'est un moment vraiment charnière dans sa vie.
Oui, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression, d'après ce que vous écrivez, qu'elle en a rajouté finalement dans la provocation. Elle a sabordé sa carrière d'une certaine manière, à plusieurs reprises.
Oui, alors je ne sais pas si elle a sabordé volontairement. Il y a eu... Elle a tourné un très grand film juste après, qui est le
Profession
film d'Antonioni
reporter.
Avec Jack Nicholson, qui est un film magnifique auquel elle était très attachée. Elle a tourné d'autres grands rôles, dont dans le dernier film de René Clément. Mais c'est vrai que ces films ont été effacés, en fait, retenu que le tango. Et après, il y a la chute dans la drogue qui l'éloigne forcément des plateaux, puisque elle le dit elle-même, elle le disait, les assurances ne voulaient plus l'assurer sur les tournages, elle était devenue ingérable pour les réalisateurs, donc il y a eu des tentatives avortées, des tournages qui se sont mal passés, en particulier avec Bunel, où elle devait faire l'objet du désir, elle devait jouer le rôle de Carole Bouquet. Elle a été virée du plateau au bout de quelques jours.
Donc
la drogue l'a éloignée des plateaux. Et puis il y avait aussi un autre aspect, c'est qu'à partir du dernier tango, elle s'était fixée, c'est pour ça que je vous disais, elle avait du caractère et elle savait ce qu'elle voulait, en tout cas elle savait ce qu'elle ne voulait plus, et elle n'acceptait plus de scénario où elle aurait été contrainte de se déshabiller.
Et la plupart du temps, on lui proposait cela.
Et évidemment, suite au tango, les scénarios qui lui arrivaient le plus souvent étaient des scénarios où elle aurait dû figurer nue, et ça pour elle, il en était mais hors de question, et donc elle refusait systématiquement tous les scénarios où il y avait une scène de nudité, même légère, même évoquée.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Alors oui, on a oublié de dire, enfin vous l'avez peut-être dit, qu'elle était très jolie, avec un visage enfantin sur un corps très féminin. Et c'est vrai qu'elle était vraiment ravissante, un peu sauvageonne. Et je pense à Antoine, je crois que c'est Antoine, dans les 400 coups. Il me semble, avec cette révolte en elle.
Oui, oui, oui. Non, il y avait cette... Bah, en effet, au moment du tango, elle a 19 ans. Hein, donc, oui, elle a encore toutes les rondeurs de l'adolescence.
Oui. Et dans ce film, elle est face à des hommes mûrs, en
oui,
fait.
Oui, hein, oui, oui, oui. Ah, bah, lui, il a 48 ans, oui, Brando, oui, à l'époque. Brando, à l'époque, c'est l'acteur qui est un peu sur le retour, hein, parce qu'il a fait... on considère que sa carrière est derrière lui. Il a beaucoup de problèmes d'argent. C'est un peu une période de très difficile pour lui. Et en fait, c'est ce film et Le Parrain qui va être tourné à quelques mois d'intervalle qui vont vraiment remettre en scène. Donc oui, elle avait ce visage à la fois avec cette grande chevelure bouclée, très sauvageonne, ce regard noir, et en même temps les rondeurs de l'enfance.
Oui. Qui ont attiré, je pense, la protection, peut-être le sens de protection de Brigitte Bardot, d'Alain Delon, qui ont éprouvé une amitié apparemment indéfectible.
Ah, jusqu'à sa mort, oui. Ouais. Maria a vécu, après avoir vécu chez mes parents pendant un an et demi chez Brigitte Bardot, qui était une amie de son père aussi, Daniel Gélin, qui était le témoin de mariage de Brigitte Bardot et de son mariage avec Vadim. Mmh. Donc il y avait des liens familiaux très forts. Elles ont vécu pendant un an et demi dans le même appartement. J'ai cru comprendre que c'était une période assez joyeuse. Oui. Et en fait, le moment... c'est un moment de bascule dans la vie de Maria, c'est la sortie du tango, puisque c'est à ce moment-là aussi où Brigitte Bardot lui annonce qu'elle va arrêter le cinéma.
Oui, et qu'elle quitte Paris.
Mais un peu pour les mêmes raisons, en fait, qui ont poussé Maria dans une forme de destruction. C'est-à-dire que Brigitte Bardot ne supportait plus...
Elle a su se protéger, Brigitte Bardot.
Oui, elle ne supportait plus d'être réduite à un corps, à une enveloppe charnelle, soit belle et tais-toi. Voilà, c'était quelque chose qu'elle ne supportait plus l'image que le cinéma donnait d'elle.
Elle la comprenait
très bien.
Et donc
il y avait quelque chose, et elle a décidé de façon assez radicale d'arrêter complètement de s'éloigner. Et du coup, ça a été la fin de leur cohabitation, puisqu'elle laissait son appartement à Paris. Et je pense que ça a été une période compliquée pour Maria, qui s'est retrouvée à nouveau seule, quoi, sans appartement,
à la rue,
et avec ce succès qui lui tombait dessus et le scandale qui lui tombait dessus. Brigitte Bardot a été là, en effet, et je pense que c'est bien de le rappeler parce que les gens n'ont pas forcément cette image-là d'elle, surtout à notre époque où elle a eu des prises de position assez critiquées. C'est quelqu'un d'extrêmement fidèle,
et voilà,
qui a été là jusqu'à la fin de sa vie, qui l'appelait toutes les semaines, qui lui envoyait des colis, qui l'a aidé financièrement, et qui, je pense qu'elle se reconnaissait un peu.
Bien sûr. Alors, on a parlé de la période, ces années 70, où beaucoup de choses étaient permises, la libération des mœurs. Et c'est vrai, avec des excès, hein, que ce soit dans les écrits, les propos, les films, les théâtres même. Mais on sortait d'une époque très puritaine. Il y a également quand même les parents. On parlera de la famille, parce que la famille, il y aurait beaucoup à raconter, parce que c'est très intéressant. Mais les parents, elle n'a pas eu de chance. Ni aimant, ni protecteur, je trouve, ni l'un ni l'autre.
Oui, parce que ce père qu'on a évoqué, il a été absent. C'est-à-dire père...
Puis vous en faites un portrait qui est un peu
elle
sévère, mais je pense qu'il
le
mérite.
Elle le rencontre très très tard, elle le rencontre à la fin de l'adolescence.
Il s'agit
elle
de
savait
Daniel Gélin,
qui était son père, elle connaissait son nom, mais elle ne le
très
voyait
connu,
pas.
Très connu à l'époque.
Très très connu à l'époque, elle ne le voyait pas. Et je crois qu'il lui avait rendu quelques visites quand elle était bébé, puis plus rien. Donc elle le redécouvre très très tardivement. Et c'est une relation qui se lie, qui n'est pas une relation du tout de père à fille, quoi. Pas du tout une relation paternelle
il
ou parentale.
Il la présente même pas comme sa fille, d'ailleurs.
Il l'emmène dans les boîtes de nuit.
Oui, une forme d'irresponsabilité.
Une forme d'irresponsabilité. Et donc, c'est lui qui, quelque part, qui lui fait découvrir le monde de la nuit, de l'alcool, de la drogue. Donc, c'était aussi un drôle de personnage.
Oui, un bon beau chat. Hein.
Et donc, elle a été élevée par sa mère, qui est, on va dire, pudiquement une femme très peu aimante, en tout cas avec cette fille-là.
Qui l'a mise à la porte
à 15 ans. Et très tôt, à 15 ans, elle se... Et jusqu'à la mort de Maria, ça a été une relation très difficile. Donc, en effet, il lui a manqué Peut-être que sur une autre personnalité ou quelqu'un avec une autre vie, les ravages du tango n'auraient pas été aussi importants. Il y avait une fragilité dès l'enfance, une fragilité. Voilà.
Il y a manqué un regard aimant, ce que disait Nicole Garcia, je crois, non ?
Oui.
Alors, évidemment, la famille élargie, disons, n'est pas plus rassurante. Alors, il n'y a pas beaucoup de repères. Vous montrez aussi combien elle a eu une sorte d'impact sur vous aussi, mais minimisé. Je trouve que vous en sortez très bien. Mais vous aviez des parents autres aussi, hein, je pense que ça joue. Mmh. Alors, une famille originale, excessive, je dirais théâtrale, compliquée, mortifère également. Tout à l'heure, j'ai dit baroque. Mmh. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette famille ?
Non, alors, ça dépend. Alors, il y a la famille, bon, la mienne au sens strict, celle de mes parents, qui était une famille qui ont...
On en parlera, on va en parler de vos parents.
Oui, qui ont, disons, vécu les années 70, en effet, dans toute leur coloration. Voilà.
Vous parlez des parents, moi, je trouve, d'une manière très sympathique.
Bon, c'était une époque, parce que moi, j'ai de... C'était pas toujours facile, parce que quand on est enfant, on a envie de conformisme et d'être...
Ah oui, alors j'ai ri, parce que c'est tout à fait le portrait des enfants. À un moment donné, vous avez honte, parce que vous avez des sabots, et c'est vrai que c'était la mode, vous aviez des pulls venant d'Amérique du Sud, peut-être, qui grattent,
etc. On n'était pas habillés comme
dans
les
certains
autres, et
quartiers.
Puis il y avait toute cette vie aussi, cette vie un peu en communauté, baba cool, qui était à la fois qui pouvait... qu'on pouvait ressentir, moi et mon frère, comme gênante vis-à-vis de nos camarades d'école et des enfants du même âge. Et en même temps, avec le recul, j'ai plutôt, moi, de la tendresse pour cette époque-là.
Oui,
il y avait un contexte politique aussi, où mes parents étaient engagés politiquement très à gauche, puisque mon père était maoïste. Donc, il y avait tout cet idéal révolutionnaire dont maintenant qui peut prêter à sourire.
Beaucoup sont revenus,
et qui peut prêter à sourire. Mais il y avait de la sincérité dans leur engagement. C'était des gens qui essayaient de mettre en conformité leurs idéaux politiques avec leur vie de tous les jours, avec... Donc, moi, j'ai plutôt du respect pour ça. Et après, il y a la famille, donc notre famille commune, parce qu'en effet...
Parlez-moi juste un mot de votre mère, parce que je trouvais que votre mère était très présente, très aimante,
et très protectrice,
ce qui quand même change la donne.
Une figure, en effet... qui parle peu, qui est plus discrète, mais une présence très solide pour nous les enfants, mais qu'il a été aussi pour Maria.
Le point fixe. Alors, la famille élargie. Alors là, écoutez, il y a des frères qui ne sont pas des frères, des oncles qui ne sont pas des oncles. Enfin, bon, c'est compliqué.
Oui, c'était c'est très compliqué. C'est cette famille qu'on a en commun avec Maria, où il y a une sorte... Parce que comme vous l'avez évoqué, ce n'est pas un livre uniquement sur Maria. C'est un livre sur une époque, sur une famille, la nôtre, donc. Et aussi sur comment on grandit en tant que petite fille, puis jeune fille, puis femme. Comment on devient une femme avec une personnalité de femme comme ça aussi forte dans la famille. Donc il y a toute cette famille qui sont mon père, ma mère de Maria et leur demi-frère et sœur, qui est une famille en effet très déstructurée, avec beaucoup de folie, avec beaucoup d'addictions, beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de drogue, beaucoup de suicides.
Pour vous et pour Maria, rien n'est sûr. Il n'y a pas de repère là chez eux, parce que vous les considérez comme des oncles, et puis finalement, on vous dit, finalement, ce ne sont pas de vrais oncles. Il y a des vrais et des faux. Vu de l'extérieur,
c'est flou.
Il y avait un grand flou, quelque chose d'un peu angoissant. Alors, évidemment, vu comme ça, mais en même temps, on se rend compte que c'est une famille quand même qui a beaucoup d'addictions, et puis assez mortifère, parce qu'il y a quand même pas mal de suicides.
Oui. Non, c'est une famille qui a beaucoup souffert, et en particulier les femmes de cette famille, puisque Il y a cette idée aussi, même si je ne crois pas avoir aux malédictions, mais c'est vrai que les femmes de cette famille ont beaucoup souffert. Notre grand-mère commune, qui avait été mariée de force à 15 ans, qui a une vie très difficile, qui était touchée par l'alcoolisme. Donc, il y a la mère de Maria, qui elle-même a eu une vie difficile. Maria, donc il y avait une espèce de sentiment comme ça.
Presque d'héritage systématique de difficultés.
Que la souffrance et la mort ne sont jamais très très loin dans cette famille. Ouais, et donc ça, c'était... Et pour moi, je pense que quand j'étais enfant, Maria, elle incarnait tout ça, en fait, en une seule et même personne. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait... elle incarnait tout ce qui pouvait avoir, en effet, de violent, de douloureux dans cette famille. Et c'est comme si elle avait pris...
elle était la quintessence de ça. Oui.
Après, elle est, c'était une force de caractère, donc elle s'est sortie de ses addictions et elle a eu
une compagne qui l'a
fin de vie apaisée,
jusqu'à
heureuse.
Mais vous, Vanessa, on va un peu parler de vous quand même, parce que en fait, dans cette famille élargie, bon, vous me pointez toutes ces difficultés, vous parlez d'oncle, d'ailleurs, c'est parfois assez drôle, mais effectivement, tout est flou, rien n'est certain, rien n'est acquis. Vous avez, quand je lis votre ouvrage, c'est une enfance plutôt heureuse, finalement, avec une forme de liberté, des limites. Bon, vous avez une anorexie infantile qui s'apparente un peu à celle qu'a eue votre père, mais vous en êtes bien remis, et c'est tant mieux. À un moment donné, vous vous dites « je suis une éponge ». Ça veut dire que vous ne vous sentiez pas bien dans ce milieu bourgeois dans lequel vous étiez à l'école, apparemment, dans les établissements scolaires ?
Non, c'était ce sentiment d'être toujours en décalage et du coup, ressentir une forme de honte, en fait.
Parce que cette famille était trop déjantée.
Oui, et puis parce que j'avais l'impression que ça se voyait, quoi.
Et vous pensiez que chez les autres, il n'y avait pas...
Et que les autres allaient se dire, oh là là, ils sont complètement fous, ces Schneider. Et donc oui, il y avait une forme de honte que je pense avoir mis du temps à surmonter. Toujours la crainte qu'on s'aperçoive que bon, chez nous, c'était quand même un peu bizarre, que... Il y avait des gens un peu bizarres, voilà, et je pense qu'il faut...
Les jeunes aiment bien que ce soit, aiment bien un certain conformisme, enfin les jeunes jusqu'à un certain âge. Hein.
Oui, en tout cas dans l'enfance, moi je suis convaincue que les enfants, aiment, sont extrêmement conservateurs. On veut être habillé de la même façon que ses camarades de classe, on va avoir les mêmes parents, le même intérieur, la même maison.
Exactement, ça c'est tout à fait vrai.
Et surtout que rien ne... les mêmes
jouets...
Oui,
qu'on ne se fasse pas remarquer.
Qu'on ne se fasse pas remarquer, voilà. Et nous,
mais alors...
beaucoup remarqué, donc c'était très angoissant. Vraiment.
Vous avez une phrase qui m'a fait bondir, Vanessa. Vous avez toujours ce sentiment de n'être pas comme il faut, ça ne vous a jamais quitté. Alors, je dois vous dire que vous faites l'admiration de bien des gens quand on vous voit, entre autres, à la télévision. Alors, je vais vous faire rougir. On vous trouve très belle, on vous trouve très talentueuse. Et je me dis... En plus, on a l'impression que vous avez une forme d'autorité, mais d'autorité bien assumée, enfin, parce que vous connaissez vos sujets, en particulier dans les débats politiques. Oui. Et je me dis, comme quoi, voyez, vous camouflez bien.
Ah oui, je pense. Non, mais je pense qu'il y a une part d'expérience, quoi. Heureusement, on apprend à acquérir plus de confiance en soi au fil des années et on arrive à réparer des choses. Et puis écrire, c'est aussi certainement pour moi un moyen aussi de comprendre des choses sur mon enfance, sur la façon dont je me suis construite. C'est certainement un moyen de réparer aussi.
Et de dire les choses, ça fait du bien.
Ça a une utilité. Oui. Et puis toute la construction professionnelle donne évidemment une part d'assurance, mais je sais que dans certaines situations, je sens que que la fragilité est pas très loin. Voilà, pas très loin.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
De même qu'à un moment donné, il y a une phrase assassine que vous a rapportée un copain à la fac concernant votre couleur de peau. Je vous vois, je me dis bon, noire ou blanche, peu importe, mais vous avez le teint mat.
Oui, mais ma mère est métisse.
Métisse, donc, j'ai bien compris. Mais alors bon, c'est vrai que peut-être qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas, ça paraît d'une banalité, et puis j'ai pas compris que votre copain puisse vous rapporter ça. Déjà.
Oui, mais c'était... alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est très difficilement compréhensible pour... en particulier pour les nouvelles générations et dans les grandes villes, et dans une grande ville comme Paris. Là, moi, je parle d'une époque où on est dans les années 70, à la fin des années 70,
il y a beaucoup moins de mixité,
il y a très peu de gens de couleur, et en tout cas, on était dans un quartier où il y avait... peu de gens de couleur, et c'est vrai, quasiment pas, et en effet, je me souviens de scènes de racisme concernant ma mère, qu'on a refusé de servir dans un magasin devant moi, il y a eu des choses comme ça qui ont marqué
d'ailleurs,
mon enfance.
Votre grand-mère ne voulait pas entendre parler de couleur, non, de, il me semble, la grand-mère maternelle.
Il y avait quand même quelque chose à cette époque encore, c'était à la fois l'époque de l'ouverture, mais dans les faits...
pas encore.
Oui, il y avait encore... alors bon, il y a encore un racisme très fort, le voit dans toutes les études, qui se manifeste peut-être différemment, mais en effet, je pense pas que... aujourd'hui, une petite fille qui aurait eu mon type physique entendrait des remarques racistes. Mais c'était le cas. Je me souviens très bien. Alors, ça n'arrivait pas tout le temps non plus, mais à l'école, quand on était petit avec mon frère, on nous appelait les négros. C'était quelque chose
ah, oui.
de...
voilà. C'est... Oui, oui, oui.
Donc,
oui.
C'était une époque où encore être... c'était le début, en fait, le début.
Oui, tout à fait, oui. Oui, on a du mal à imaginer maintenant. Alors, Vanessa, pourquoi écrire ce livre? Ça m'intéresse, ça.
Alors, c'est une question qui est très difficile, parce qu'il y a... vous l'avez évoqué, ce livre, on aurait... dû l'écrire ensemble, puisque Maria m'avait demandé, avant qu'elle soit malade, hein, c'était pas du tout lié à sa maladie, que je lui prête en quelque sorte ma plume de journaliste pour parler d'elle, raconter un peu sa vie, puisqu'elle avait une inquiétude très profonde. C'était qu'il ne reste d'elle le jour où elle disparaîtrait. Elle devait avoir deviné qu'elle ne vivrait pas très âgée, puisqu'elle est morte à 58 ans. Qu'il ne reste d'elle qu'une seule image, d'une seule scène, d'un seul film. Et elle voulait qu'on parle d'elle autrement, puisqu'elle se rendait bien compte qu'à chaque fois qu'elle était interviewée, qu'à chaque fois qu'on lui parlait, toujours et toujours de ce tango, en dépit du fait qu'elle ait tourné dans une soixantaine de films. Donc c'était... quelque chose de particulièrement douloureux. On avait signé à l'époque un contrat, toutes les deux, avec un éditeur, pour écrire ce livre. Et très vite, il y a eu beaucoup d'anxiété.
Elle se dérobait.
Oui, parce que je pense qu'il y avait des choses qui étaient encore trop douloureuses pour elle et qu'elle ne souhaitait pas aborder. Et moi, je ne voulais surtout pas la contraindre. De toute façon, je n'aurais pas pu la contraindre. Ça aurait été trop compliqué, mais... il y avait quand même cette relation que je tenais à conserver, qui était une jolie relation que je tenais à conserver. Et du coup, on avait renoncé à ce projet. Et après, Maria est tombée malade, elle est morte. Mais je pensais plus forcément à faire un livre, mais je pense que l'idée m'avait quand même jamais quitté. Après, je ne savais pas comment j'allais le faire, si j'allais le faire, combien de temps ça allait
me prendre. Une manière de rendre hommage aux enfants perdus.
Oui, c'était évidemment une manière de lui rendre hommage, de raconter en effet ce qu'elle n'avait pas pu dire, c'est-à-dire la femme qu'elle avait été, voilà. L'actrice qu'elle avait été.
Alors, je pense que le temps qui nous est imparti s'achève. Ça a été difficile de l'écrire ?
Ça Ça a été très difficile, oui. Ça a été très difficile parce que c'est très difficile d'écrire sur sa famille, sur des gens qui sont encore là, sur des gens qui ne sont plus là aussi. C'est très, c'est pas plus simple.
Bien sûr.
Parce qu'on se demande toujours ce qu'ils auraient pensé de ça ou ça. Et puis parce que je sais qu'il y avait des choses, elle avait des réticences aussi à parler. Et donc, il y avait toujours cette question.
Est-ce que c'est légitime?
Est-ce que j'ai le droit de parler de ça? Et j'ai répondu à la question en me disant, en fait, c'est un livre qui parle autant de moi que d'elle, ce qui est le cas, en fait, je pense.
Bien sûr.
Et donc, voilà.
En tout cas, un très bon livre. Je dirais pas un roman, hein, on va dire. Ce n'est pas vraiment une biographie.
Non, c'est à la lisière de plusieurs...
Voilà. Tu t'appelais Maria Schneider, écrit par Vanessa... Ah, Maria Schneider, pardon, excusez-moi. Écrit par Vanessa Schneider et édité chez Grasset. Un grand merci, Vanessa.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci.